Campus Lille, il est midi.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Sur la partition, la plupart du temps, les compositeurs précisent quels instruments doit jouer telle ou telle partie. Ce faisant, ils règlent le paramètre du timbre, ils indiquent aussi la hauteur et la durée que chaque son devra avoir. Et puis, ils donnent des indications de nuances pour affecter, à chaque note ou à chaque phrase, un volume qui peut aller de pianissimo à fortissimo en passant par toutes sortes de paliers. Timbre, hauteur, durée et volume sont les quatre paramètres du son couramment cités. Mais il y a un cinquième paramètre moins systématiquement relevé, l'espace, ou pour le dire dynamiquement, la direction du son. Au fil des précédents numéros de Métaclassique, on a souvent eu l'occasion de faire entendre comme les paramètres peuvent se renforcer les uns les autres. On va pouvoir chercher aujourd'hui comment les effets d'éloignement peuvent être installés par l'espacement des musiciens, mais aussi nourris par des contrastes, de nuances ou même des jeux harmoniques. Pour commenter l'éloignement musical, nous recevons deux invités, Muriel Joubert, qui est professeur agrégé au département musique et musicologie de l'Université Lumière Lyon 2, et François-Xavier Ferron, chargé de recherche au CNRS, qui travaille au sein du laboratoire STMS, Sciences et Technologies de la Musique et du Son de l'IRCAM. Il a consacré sa thèse de doctorat aux illusions auditives et s'intéresse plus généralement à l'impact de l'acoustique et de la psychoacoustique sur les pratiques musicales contemporaines. Pour commencer, voici un extrait d'une pièce composée en 1908 par Charles Ives. Quatre flûtistes jouent sur scène, mais les réponses de la trompette solo et d'un ensemble à cordes viennent d'un dehors de la scène. Michael Tilson Thomas à la tête de l'Orchestre Symphonique de Chicago dans The Unanswered Question de Charles Ives. Bonjour Muriel Joubert.
Bonjour.
C'est un exemple où là, les musiciens sont pour les invisibles, pour les quatre flûtistes, pour les autres pas visibles. Alors ça se voit pas forcément à la radio, mais ça s'entend en fait, puisque le fait que certains instruments soient hors scène fait que leur son est filtré, qu'on n'entend pas.
Oui, c'est ça. Alors ça. Là, en fait, il y a une trompette solo qui joue, qui pose les questions. Mais les questions, alors les quatre flûtes qui sont à l'arrière, alors qui peuvent être effectivement derrière des rideaux, mais c'est pas forcément précisé, font des réponses, mais des réponses qui, on s'aperçoit au niveau tonalement, sont à côté de la plaque quelque part. Et puis il y a l'orchestre qui est en dehors de la scène et qui va donner comme un bruit de l'univers en quelque sorte. Et voilà, la question sans réponse, c'est la question existentielle qui est posée, mais à chaque fois, comme nous dit le poème auquel la pièce se rapporte, eh bien chaque réponse est un mensonge. Voilà. Et effectivement, au niveau de l'audition ici de l'espace, on entend bien différents degrés.
Donc là, on a un éloignement qui a une fonction dramaturgique, en fait, pour nous dire qu'il y a une déformation rhétorique, quasiment.
Tout à fait.
On a d'autres cas de musiciens hors scène. Bah, par exemple, quand Wagner met les musiciens dans une fosse, ça fait qu'ils deviennent invisibles au public et que ça idéalise la musique.
Oui, tout à fait. Il y avait aussi un objectif évidemment très pragmatique qui était de ne pas recouvrir les voix. Mais après, il y a une fonction symbolique, bien sûr. Oui.
Dans Tristan et Iseult, on a un corps anglais qui se trouve sur scène pour le coup, mais souvent en coulisses, et là aussi, il est censé venir d'ailleurs.
Oui, c'est ça. En fait, au début de l'acte 3, c'est Tristan qui est blessé, avec qui est accompagné de son ami Courvenal, et ils attendent la venue d'Isolde, sur un bateau. Et c'est le berger qui est chargé de les prévenir. C'est là où on voit que finalement, le son est vraiment important pour l'appréciation de l'espace. Enfin, j'aime bien rappeler aussi que dans des temps très très anciens, il semblerait qu'on avait des oreilles avec des muscles qui nous permettaient comme ça d'orienter finalement les pavillons et d'essayer d'orienter notre oreille, notre écoute vers tel ou tel bruit. Et bien comme certains animaux d'aujourd'hui encore, ouais. Tout à fait. Bon, alors on a perdu ça, mais ça veut bien dire aussi que l'ouïe, par l'écoute, on a une révélation de l'espace extrêmement forte, peut-être même plus forte quelque part qu'au niveau visuel, où on a une perception beaucoup plus globale, mais pas toujours détaillée. Alors évidemment, ce n'est pas toujours valable, parce que si le son est complètement saturé, on n'entend plus rien, et là, on a besoin de la vision. Mais voilà. Et pour revenir à Tristan, eh bien c'est ça, le signal, ça ne va pas être un signal lumineux ou quoi que ce soit, ça va être le signal de ce corps anglais, cette mélodie du berger, qui devrait être gaie, parce qu'elle devrait annoncer la venue d'Isolde, mais en fait, là, qui reste triste, parce que cette venue tarde. Voilà.
Bonjour, François-Xavier Ferron.
Bonjour.
On vient donc d'expliquer comment mettre des instruments un peu plus loin que les autres, ça distribue l'espace et ça va donner des directions à l'écoute. Vous avez un exemple dans la troisième symphonie de Mahler aussi, où un instrument se trouve hors scène.
Je me souviens d'une performance de cette symphonie à Paris, où j'avais oublié qu'il y avait un instrument en coulisses, et dans le troisième mouvement, si je ne dis pas de bêtises, il y a un corps postal vraiment hors champ et qui est très présent dans la construction de ce mouvement, et le fait de ne pas le voir sur scène rajoute quelque chose d'assez magique au fait de l'entendre venir de loin en plus. Donc il y a cet aspect énigmatique porté par la non-présence qui est assez riche dans cette pièce et dans bien d'autres exemples.
On a déjà cité trois compositeurs, Charles Ives, Gustav Mahler à l'instant et Richard Wagner. Ça veut dire qu'on est sur fin 19e, début 20e siècle. C'est des phénomènes qu'on peut trouver à d'autres époques de l'histoire de la musique. On peut remonter déjà un peu plus tôt dans le 19e siècle. On trouve un exemple dans la Symphonie fantastique de Berlioz, Muriel Jubert.
Déjà, Berlioz, dans la Symphonie fantastique, à de nombreux endroits, il écrit dans le lointain. Alors, par exemple, dans le cinquième mouvement, le thème de l'idée fixe, là, qui apparaît un peu déformé par la clarinette en do, et là, c'est pareil, il nous met lointain. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il veut qu'on perçoive quelque chose d'éloigné. Et puis après, il va faire également tout un jeu de cloches, des cloches soit situées sur la scène, soit en coulisses.
Extrait du Songe d'une nuit de sabbat de la Symphonie fantastique de Berlioz. S'il en arrive à pouvoir investir ces jeux de profondeur, c'est qu'il a une conception spatiale de l'orchestre.
Oui, tout à fait. Conception spatiale mêlée à une conception timbrique. Hein. On sait très bien que quand on réduit Berlioz au piano, ça convainc pas tout le monde, en tous les cas, totalement. Et ça, on peut le voir donc dans le Requiem. Ouais.
Berlioz était vraiment un précurseur dans l'intégration de l'espace comme paramètre musical. Alors évidemment, on revient toujours, c'est les Gabrielli à Venise qui ont été les premiers expérimentateurs en divisant.
C'est bien avant pour le coup.
Oui, bien avant. Mais après, il y a une petite phase.
Qu'est-ce qu'il faisait bien, Gabrielli ? Il plantait les choristes partout dans l'église, c'est ça ?
Voilà, il pouvait diviser jusqu'à 3 groupes ou même plus dans cette immense basilique de Venise, c'est la basilique San Marco. Et ils ont vraiment adapté l'écriture au fait de pouvoir éloigner les groupes de chanteurs et donc de simuler des phénomènes d'écho, des jeux de réponses, questions. Voilà. L'espace est vraiment devenu un paramètre structurel avec eux. Et après la période classique, ça s'est... Il n'y a pas eu grand chose. Mozart a fait.
On est plus dans le discours que dans sa spatialisation.
Et avec Berlioz, ça revient vraiment en force.
Mais c'est vrai que, puisqu'on parle de spatialisation, dans la basilique Saint-Marc à Venise, il y avait réellement deux tribunes qui faisaient face l'une par rapport à l'autre. Et de ce fait-là, il y avait donc deux tribunes avec la possibilité de mettre deux chœurs différents, deux ensembles instrumentaux différents, et avec la possibilité comme ça de jeu, de déco entre les deux. Et après, effectivement, il y a une poly. Des polychoralités qui se sont développées.
Au début des années 1840, François-Xavier Ferron, on invente l'effet Doppler. C'est quoi ?
Alors on invente.
Enfin, on invente. On découvre, on l'explique.
L'effet Doppler, justement, est un phénomène physique qui affecte n'importe quel phénomène ondulatoire. Pas que le son, mais d'ailleurs il a été étudié par le physicien autrichien Christian Andreas Doppler, qui travaillait sur les émissions lumineuses produites par les étoiles. Donc il ne travaillait pas sur le son quand il a montré ce phénomène.
Donc c'est la conscience que simplement l'observateur, en fonction de la distance qu'il a avec ce qu'il observe, la distance joue sur sa perception.
La distance, le déplacement, surtout. L'effet Doppler, ça se traduit par un décalage fréquentiel d'une onde observée lorsque la distance entre l'émetteur de cette onde et le récepteur varie au cours du temps.
Donc l'exemple parfait, c'est la voiture.
Exactement.
C'est ce qui fait que la voiture me paraît de plus en plus aiguë à mesure qu'elle s'approche de moi et de plus en plus grave à mesure qu'elle s'en éloigne, dans le bruit qu'elle émet.
Exactement. Parce qu'il y a une superposition de deux vitesses, la vitesse de propagation des ondes acoustiques avec la vitesse de la voiture qui se rajoute. Donc l'effet Doppler va pas... dans le domaine sonore, va pas s'entendre, se percevoir si la voiture se déplace à 5 km/h.
Post-War Dream, là, on a un titre des Pink Floyd qui commence par un enregistrement d'une voiture qui fait entendre donc cet effet Doppler, mais on a des exemples musicaux où des compositeurs essayent de reconstituer par les instruments, par l'orchestre, l'effet Doppler.
Oui, là, en effet, sur cette plage qui ouvre l'album The Final Cut, des Pink Floyd, c'est vraiment un enregistrement brut qu'on peut faire soi-même le long d'une autoroute. Mais après, oui, beaucoup de compositeurs se sont inspirés, ont cherché à imiter l'effet instrumentalement, parce qu'en fin de compte, c'est une variation de fréquence, on va dire un glissando vers le grave, avec aussi une variation d'intensité. Quand le son se rapproche, l'intensité augmente. Quand la source s'éloigne, l'intensité rediminue. Donc, c'est un crescendo, décrescendo, et suivi sur lequel se rajoute un glissement fréquentiel. Donc, on peut très bien imiter cet effet instrumentalement.
Comme le fait Gustav Mahler, à nouveau.
Il y a un exemple remarquable, en effet, fin 19e, à la fin de la deuxième symphonie, d'un mouvement de la symphonie Résurrection. Il semble imiter vraiment cet effet aux trompettes, parce que c'est exactement ce même profil dynamique, crescendo, décrescendo, avec un glissement d'un demi-ton, entre mi et mi bémol, et l'effet est vraiment on laisse penser que Mahler a cherché à imiter cet effet qu'on pouvait observer à cette époque dans la nature grâce justement à l'arrivée de la vitesse avec les chemins de fer.
Muriel Joubert, à la fin du 19e siècle, en peinture, on a ce mouvement qui est l'impressionnisme et donc sortir de l'atelier pour faire des peintures. Et en musique, on a l'impression aussi qu'il y a un effet du dehors sur la musique quand on qualifie par exemple Debussy comme impressionniste. Et précisément, chez Debussy, il y a des rapports comme ça de proche et de lointain, il y a de l'espace.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au moment même où les impressionnistes vont mettre à mal tout ce qui est perspective issue de la tradition de la Renaissance, et donc réinvente un langage pictural. Debussy aussi fait de même. Et effectivement, par rapport à ces effets d'éloignement et de rapprochement, il va appliquer des effets d'écriture qu'on pouvait trouver déjà, ceci dit, à l'époque romantique. Hein. Tout ce qui est remous de vagues dans la mer, par exemple, et tout ce qui est travail sur les nuances, hein. Ça semble très évident comme ça, ben voilà, un effet de rapprochement, un effet de crescendo, d'éloignement des crescendos, même si on sait qu'acoustiquement, pour l'oreille en tous les cas, ça ne suffit pas d'appliquer cet effet. Et en plus, il va accumuler des instruments au niveau de l'écriture orchestrale, qui fait que c'est pareil, il va avoir une densité sonore de plus en plus importante, un effet d'augmentation de volume, de densité. Donc comme ça, il allie ces différents paramètres de manière assez évidente. Et on s'aperçoit que même finalement, tout cela devient même des topiques, de l'écriture musicale. On commence en rentrant dans la matière tout doucement. Alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup à partir de la fin du 19e siècle, mais on pourrait sans doute trouver des cas précédemment. Et donc on commence par rentrer dans la matière sonore, ce qui fait que ça fait comme un effet de rapprochement, puis après à la fin on s'en éloigne en quelque sorte. Donc,
On va écouter le début de fête dans les nocturnes avec un empilement des paramètres pour servir un même effet qui est manifeste. Extrait de fête avec Pierre Boulez à la direction du New Philharmonia Orchestra. C'était donc dans les nocturnes de Claude Debussy. Muriel Joubert, c'est aussi figuratif, c'est-à-dire on doit s'imaginer une procession rejoindre la fête.
Oui, c'est vraiment ça qu'il a voulu exprimer Debussy ici. Hein. Il écrit, c'est aussi l'épisode d'un cortège, parce qu'il s'agit de fête, mais dans cette fête, il y a un cortège qui passe à travers la fête. Donc on pourrait même penser que, en plus du rapprochement, il y a presque un mouvement latéral aussi qui se passe. Et donc ce cortège doit se confondre à un moment avec la fête, justement. Il va suivre ce même procédé un peu plus tard dans Iberia, dans Matin d'un jour de fête, où pareil, il va faire se rapprocher un cortège, alors de manière différente, peut-être moins audible immédiatement que dans Fête, mais c'est cela. Et donc toujours en utilisant des effets de timbre avec l'usage de sourdines, par exemple, pour la trompette, pour les cordes, les pizzicati, puis après les choses s'enflent, et voilà, c'est toujours un peu les mêmes procédés. Et en plus, ici sur la partition, il écrit réellement, il écrit un peu rapproché, ou à la fin, il écrit en s'éloignant, par exemple.
François-Xavier Ferron.
Après, ce qui est impressionnant, c'est que Debussy a une écriture très spatiale, mais n'utilise, recourt pas à la spatialisation des interprètes. C'est vraiment, comme le signalait Muriel, à travers l'écriture, le choix des timbres, les nuances, qui propose une dimension spatiale dans sa musique. Et donc, il ne faut pas confondre ce qu'on peut appeler spatialité et spatialisation du son. Et c'est vrai que le XXe siècle, ces deux composantes ont vraiment été développées par de nombreux compositeurs. Et là, il y a une pièce remarquable de Ligeti qui s'appelle Lontano, au lointain, ce qui peut se traduire, et il explique bien qu'il a fait plein d'associations spatiales, mais qu'à la fin on croit même que les corps sont en coulisses par des jeux d'associations, de timbres, d'écriture, alors que voilà, tout l'orchestre se situe sur place. Donc il y a vraiment par ces compositeurs-là, quand il y a une maîtrise de l'écriture, on peut vraiment créer des sensations spatiales très prégnantes sans recourir à des artifices de spatialisation.
On réévoquera Ligeti à la fin de l'émission. En attendant, à vous entendre, il devrait y avoir d'éloignement partout. Il y a un rythme de marche, finalement.
C'est vrai.
Bon, je dis ça pour subtilement aborder la 7e symphonie de Shostakovich, où il est question carrément de marche militaire, Muriel Joubert.
Oui, donc Shostakovich, on lui demande d'écrire une symphonie en 1941, comme pour symboliser une forme de résistance à l'envahisseur allemand. Alors, c'est aussi une symphonie qui a connu plusieurs interprétations. Est-ce que réellement Shostakovich, ici, c'était par rapport à l'envahisseur allemand ou c'était par rapport à la pression, finalement, du régime stalinien, à voir. En tout cas, il dit qu'à propos de son premier mouvement, il associe ses sons à la guerre. Et en fait, si on évoque ce mouvement-là, c'est qu'il y a une marche au milieu du mouvement sur un thème qui dure 18 mesures et qui va être répété un certain nombre de fois et qui est vraiment un très très long rapprochement, basé sur un ostinato qui évidemment rappelle le Boléro de Ravel.
De la 7e symphonie de Shostakovich, parfois on l'appelle aussi Leningrad, une symphonie de 1941, ici dirigée par Marine Alsop avec l'orchestre de la radio de Francfort. On parle donc marche, il y a aussi une marche des pèlerins dans Harold en Italie de Berlioz, Marielle Joubert.
Oui, ben voilà, c'est un peu le même principe encore, hein. C'est un groupe qui passe, donc c'est une œuvre qui a été écrite en 1832, alors que Berlioz était à Rome. Et là, on entend les pèlerins qui s'approchent, avec au niveau harmonique aussi, des effets aussi inattendus, je dirais, que dans le Shostakovich qu'on vient d'entendre. Et puis, voilà, il y a un rapprochement qui dure comme ça plus de 3 minutes, ce qui est assez long quand même.
Voici un extrait. François-Xavier Ferron disait tout à l'heure que Berlioz aurait pu connaître Doppler puisque c'est la même génération. Il reste que cet effet Doppler est souvent rattaché, comme on le disait, à la voiture. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les musiques dites populaires. Enfin,
On le retrouve de,
partout,
dans,
en fait.
Partout.
Dans, enfin, surtout quand il y a le support de la musique enregistrée, voilà, qui traîne.
Exactement. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est un phénomène qui est devenu complètement dans, qui a intégré notre quotidien quand on vit en ville, dans des grandes villes ou même pas des grandes villes, parce que voilà, la voiture, une voiture qui klaxonne en roulant à 100 km/h,
dès qu'il y a une voix quelque voilà, part, il y a de l'effet Doppler pour qui est à côté.
Il va avoir des descentes d'un demi-ton. Ouais. Donc c'est vraiment un phénomène.
Un demi-ton, c'est combien de distance du coup?
Bah, ça dépend, on va dire, la fréquence émise, mais si prenons le cas d'une voiture qui klaxonne et qui klaxonne à 440 Hz, le La 3. Je ne connais pas de klaxon à 440 Hz, mais imaginons, et qu'elle roule à 100 km/h. Quand la source va s'approcher, on va percevoir plutôt un Si bémol un peu haut, et quand la source va s'éloigner, on va percevoir un La bémol un peu bas. Donc on a vraiment une descente de plus d'un demi-ton quand le véhicule roule à 100 km/h.
D'accord.
Donc ça donne un ordre de grandeur voilà, qui est tout à fait possible. Donc c'est vrai que l'effet Doppler rappelle tout de suite l'environnement un peu urbain, la jungle urbaine, on se voit tout de suite avec les taxis qui klaxonnent, qui roulent, soit nous, enfin New York, Paris, où on veut, dans n'importe quelle jungle urbaine.
Donc pour mimer la rue en musique, on a besoin d'effet Doppler.
C'est efficace, c'est efficace.
Et donc c'est ce que fait Huchard ?
Alors oui, là, c'est un disque que le batteur de jazz français Stéphane Huchard avait sorti au début des années 2000 chez Blue Note. Et qui s'ouvre sur un titre qui s'appelle Zarbi Street, donc la rue étrange. Et dans l'introduction, avant même que le thème soit entamé, les musiciens qui entourent Stéphane Huchard imitent vraiment merveilleusement l'effet Doppler, comme si une voiture klaxonnait et passait devant nous à toute allure.
Et si vous écoutez cette émission au casque ou en voiture, en plus, il y a un effet droite-gauche tout à fait efficace. On a bien entendu le ou les sax, mais alors ils ont fait un battement justement d'un demi-ton.
J'ai pas analysé en détail la descente, mais comme vous le signalez, en plus l'effet.
Ce qui est marrant, parce que c'est que l'effet Doppler fait pas de palier, il passe pas d'une note à l'autre,
non,
il est continu, alors que là il est reproduit par un palier.
Oui, légèrement, enfin, on sent une petite inflexion quand même. Ils essayent de faire le plus continu possible. Et comme vous l'avez précisé, l'effet stéréophonique droite-gauche rajoute, nous plonge vraiment dans cet environnement.
En tout cas, on connaît bien.
Ouais, c'est impressionnant.
Et alors, on peut aussi faire des variations musicales sur l'effet Doppler.
Alors là, toujours dans l'univers des voitures, du milieu de la route, bah, y a un album mythique d'un groupe tout aussi mythique qu'est le groupe de musique électronique allemand Kraftwerk, fondé par Ralf Hütter et Florian Schneider. Bah, leur premier album officiel s'appelle Autobahn, Autoroute. Et là, ils plongent pendant 22 minutes les auditeurs sur une autoroute virtuelle rempli de synthétiseurs, où il laisse entendre le son des pneus, l'autoradio, le mouvement perpétuel des routes, et aussi ces effets Doppler qui viennent. Et pour le coup, il s'autorise pas mal de liberté dans les variations. Parfois, la fréquence va plutôt réaugmenter que diminuer. Mais il y a tout un court passage où il s'amuse vraiment avec cet effet, et plus des jeux de spatialisation que permet la stéréophonie.
Et donc, on va se plonger dans une de ces 22 minutes.
La musique classique et au-delà. C'est Métaclassique avec David Christoffel.
tutoriel comment faire un effet Doppler avec son synthétiseur.
Oui, à une époque, on est au début des années 70, donc c'était complètement pionnier dans ce domaine-là. Ils ont vraiment amené les synthétiseurs dans le domaine des musiques plus populaires, tout en gardant un côté très expérimental qui est très plaisant chez Kraftwerk.
À défaut d'effet Doppler, comment on fait du proche et du lointain au XVIIIe siècle, Muriel Joubert ?
Bon, on en fait depuis très longtemps grâce à l'effet de l'écho, tout simplement. L'écho, qui, comme la réverbération quelque part, qui sont révélateurs d'espace. Alors il y a une différence entre les deux et François-Xavier est beaucoup plus spécialiste dans les sciences acoustiques que moi-même, donc sans doute qu'il pourrait m'expliquer. Mais en gros, finalement, quand la réverbération est trop grande, dépasserait 50 millisecondes, eh bien on a un phénomène d'écho, c'est-à-dire une source originale qui se répète et qu'on entend plus distinctement. Et c'est vrai qu'en tout cas, les deux effets sont révélateurs d'espace. Et ça, les compositeurs l'ont utilisé. Alors, on peut penser dans la deuxième moitié du XVIe siècle à Roland de Lassus, qui a écrit une pièce écho, soit conçue pour ensemble de cuivre, a priori, ou alors également pour groupe choral, où il écrit simplement une partie à quatre voix qui va faire chanter en canon, à distance de l'équivalent d'une mesure, même si à l'époque, il n'y avait pas de mesure. Et donc, avec un effet comme ça d'écho et d'éloignement par cette même manière. Et puis par la suite, il y a de nombreux compositeurs. Alors évidemment, dans tout le répertoire, je dirais, depuis et jusqu'à aujourd'hui, les compositeurs ont utilisé le phénomène de l'écho, comme effet d'éloignement en fin de pièce notamment. Mais il y a des compositeurs actuels qui l'utilisent dans leurs écritures. Et même quelqu'un, par exemple, comme Michael Levinas, qui considère l'écho comme le premier modèle de la polyphonie. Voilà.
Ah oui,
carrément.
Il pense la polyphonie sur le modèle de l'écho.
Oui. Il le dit plusieurs fois. Alors bon, aujourd'hui, quand il en parle, il dit que voilà, il faudrait le complexifier sans doute un peu plus cette idée, mais c'est l'idée, l'imitation et l'écho comme première polyphonie.
Alors on va écouter un exemple du XVIIIe siècle, bien connu, enfin pas bien connu en tant qu'il illustre l'écho, mais en tant qu'il est une espèce d'emblème du répertoire de l'époque, c'est Vivaldi, même si à cette époque, quand on faisait concerto, ça allait presque de soi d'avoir des répétitions avec la première occurrence forte et la deuxième piano, justement comme si c'était de la réverbération.
Oui, c'est ça. Disons que à l'époque baroque, l'ère du concerto, où il y avait comme ça des dialogues entre les groupes. Et encore une fois, ça vient aussi, entre autres, de la basilique Saint-Marc de Venise avec nos deux tribunes. Et avec Vivaldi, oui, dans ces concertos, on a ces effets-là. Donc, par exemple, dans l'opus 3, numéro 11 de l'Estro Armonico, au tout début.
On a bien un sentiment d'espace, mais aussi de volume de la pièce. On dirait que c'est réverbéré, mais on ne sait pas si c'est un effet instrumental ou si c'est parce qu'ils sont tout simplement dans une très grande pièce.
Il y a un effet d'écriture certain. Quand on regarde la partition, les deux entrées de violon se situent à deux croches uniquement de différence, avec le même thème. Ce qui fait qu'on a, comme vous le disiez, un effet quasiment de réverbération.
Alors c'est quoi la différence entre réverbération et écho ?
La réverbération, alors peut-être François-Xavier pourra
le dire
moduler un peu. Voilà,
c'est
ça.
D'abord.
Musicalement, la réverbération, c'est comme un écho, mais avec un délai très, très rapide, court.
Ah
alors
oui.
Que l'écho et la réverbération, on n'entend pas finalement en quelque sorte la deuxième occurrence, la réplique.
Non, parce que je crois que dans l'histoire de la radio, on a commencé à parler de réverbération en créant une chambre d'écho, donc ça semble être la même chose.
C'est le même phénomène, hein, c'est réverbération et écho, c'est des copies décalées de la source, du son. On parle, là, le son est projeté sur les murs et revient. Il n'y a pas d'écho parce qu'il revient tellement vite, les copies
sont quasi simultanées.
Se fusionnent et donnent un peu cette acoustique chaleureuse, ou pas très quand on est dans des studios de radio très, très secs. Voilà, c'est pas très agréable.
Anéchoïque.
Voilà, ouais. Quasiment anéchoïque. Une chambre anéchoïque, c'est une chambre où justement il n'y a pas de réflexion. En théorie, il n'y a aucune réflexion sur les parois, donc on n'a que la source directe. Ce qui est des cas de figure qui n'existent pas dans la nature. L'écho, c'est en effet quand il va y avoir une réflexion qui aura beaucoup d'énergie et en plus qui va revenir tardivement. Et donc qui va être perçu comme une répétition du signal émis. Donc on pourrait avoir dans des grandes salles comme l'Opéra Bastille, l'onde qui s'est réfléchie sur le plafond et qui touche le public pourrait en soi donner un écho, tellement la distance parcourue est importante. Mais sauf que là c'est tout le travail des acousticiens dans le domaine de l'acoustique architecturale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'énergie sur les ondes les plus tardives et que donc les ondes les plus tardives se mélangent à toutes les ondes, aux réflexions plus proches et de façon à avoir un lieu avec un temps de réverbération agréable. Et le temps de réverbération varie en fonction de l'utilité d'une salle. On n'a pas le même temps de réverbération dans une salle de conférence que dans une salle de concert.
Mais si on mettait vos auditeurs du 19e siècle en haut de la salle et au premier rang, ils entendraient la même note ?
Ah oui,
quand même.
Oui. Mais pas forcément le même timbre, justement. Parce que la réverbération, c'est ça. Oui. Finalement, la réverbération crée le timbre.
Voilà. Il y aura un filtrage de certaines composantes.
Et une façon de traiter l'harmonie va donner une impression de réverbération, même si elle n'est pas relayée acoustiquement. Au point qu'il y a des compositeurs qui travaillent avec la réverbération comme justement un travail de l'harmonie. Je pense à Marc-André Delbavy.
Oui, alors je ne sais pas si ça va tant se répartir dans l'harmonie que dans l'écriture orchestrale extrêmement sophistiquée.
Donc dans les timbres, alors dans le
oui,
choix des
ça,
couleurs.
Oui, c'est ça. Et Delbavy dit lui-même hein, qu'il adopte une écriture de type perspectiviste dans ses partitions, comme s'il voulait justement réintégrer tous ces effets de réverbération, de spatialisation.
Donc il prend les rapports d'espacement entre les instruments comme des opportunités pour les colorer.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant aussi chez Delbavy, c'est qu'il est parti d'expériences en spatialisant réellement ces orchestres ou ces ensembles instrumentaux. Le concerto pour violon, c'est le cas, hein, où il y a des instruments, alors j'ai plus dans le détail, mais qui sont autour du public, des ensembles qui sont autour du public. Et après, par la suite, il a complètement réintégré à l'intérieur même de l'orchestre, qui va se trouver en frontal, comme d'habitude. Il va réintégrer donc ces effets de perspective sonore, mais uniquement dans l'écriture orchestrale.
Oui, par exemple, Delbavy, en effet, utilise des procédés d'écriture qui imitent certains phénomènes naturels, comme l'effet de rémanence. C'est typiquement l'effet de rémanence, on l'a dans des lieux à forte réverbération. L'oreille va tendance à prolonger le son, alors que physiquement, il y en a plus. Quand il y a eu un long temps de réverbération, on ne sait plus trop à un moment quand est-ce que il y a plus de signal ou pas. Donc l'oreille peut prolonger un petit peu, alors que physiquement il y a vraiment plus de son. Et Delbavy le fait vraiment bien dans des œuvres comme Colors, sans spatialiser du tout les interprètes, mais une source principale va émettre un motif mélodique, et parfois il va y avoir des sources secondaires qui vont entrer pianissimo sur certaines notes, et la source principale va se couper, mais pas les sources secondaires, qu'on ne les aura pas entendues rentrer. Par contre, elles vont prolonger le son, comme créer une petite réverbération artificielle, instrumentale.
Et donc de jouer avec le seuil entre ce qui n'est plus du son et ce qui est déjà de la résonance.
Voilà, là, ouais, c'est une façon de prolonger la résonance des instruments, mais surtout, tout l'art, c'est de ne pas faire entendre, on n'entend pas l'entrée des instruments. C'est ça qui donne cet effet de réverbération.
Thank you. Colors de Marc-André Dalbavy, un extrait qui traite avec le seuil qui fait penser à ce qu'on appelle la musique spectrale, que Gérard Griset préférait appeler la musique liminale, justement avec cette conscience de rentrer dans le son éprouvant la frontière.
Que ce soit Dalbavy ou Griset, Lévinas, Tristan Murail, tous un intérêt très fort pour les phénomènes acoustiques, les phénomènes sonores. Murail imite merveilleusement l'écho dans Territoire de l'oubli pour piano, et la réverbération aussi en laissant la pédale tonale pendant les 25 minutes de musique. Griset, lui, travaillait sur la profondeur des sons en simulant les sons différentiels. C'est-à-dire c'est des petits sons très faibles, très chétifs, qu'on entend quand deux notes sont émises en même temps, deux fréquences sont émises en même temps.
Une espèce de petit vibrato quand ça sonne faux.
Pas des vibrato. Non, ça, c'est un phénomène de battement, c'est autre chose. Dans le son différencié, c'est vraiment un son qui se mélange aux sources primaires, donc qu'on a beaucoup de mal à isoler, mais qui sont vraiment présents, qui ont été mis en évidence par Tartini, et puis par des psychoacousticiens comme Helmholtz. Et donc Griset, lui, les met en valeur, ces sons différentiels, en les transcrivant à travers l'écriture. Et ça lui permet de créer ce qu'il appelle une ombre à l'intérieur d'un intervalle, et donc de donner une espèce de profondeur dans l'écoute de ces intervalles musicaux primaires.
Muriel Joubert, vous évoquiez Michael Lévinas. Il s'intéresse à l'effet Doppler ?
Oui, énormément. D'ailleurs, il écrit parfois dans ses partitions Doppler ou effet Doppler. Voilà, par exemple.
Mais comme une intention, pas comme quelque chose qu'il faut reconstituer ou
Comme une technique qu'il utilise, en fait, et qu'il le mêle à l'effet d'écho. Donc ça, on l'entend très bien dans certaines parties de Se briser, où il va faire sonner en arpège une harmonie, qu'il va faire jouer en écho par d'autres instruments, mais un écho désaccordé. Et c'est en cela, finalement, que ça se rapproche de l'effet Doppler. Donc, par exemple, dans Se briser, pour être un peu plus technique, il va y avoir une harmonie de mi majeur qui va être un peu ternie par mi bémol majeur. Ailleurs, il va y avoir, pareil, des harmonies légèrement décalées, donc un mi majeur, on va dire, de base, et après qui va être comme un peu comme l'ombre, en quelque sorte, un peu transformé en fa majeur et mi mineur à chaque fois. Voilà. Et même, je dirais que tout cela aussi, il le trouve dans le son naturel du piano. Le piano, quand on le fait sonner, au bout d'un moment, quand on entend bien, on écoute bien, les sons donnent l'impression de pleurer. C'est ce qu'il appelle, Lévinas, les larmes du son. Voilà. Et il l'a voulu notamment dans une pièce qui s'appelle « Les désinences », pour piano acoustique et clavier électronique. Il a voulu recréer ses larmes de son et il utilise pour cela finalement un dérivé de ce couplage entre l'écho et l'effet Doppler, où il va justement accorder les claviers dans des tempéraments différents à un quart de ton, ce qui va créer des battements.
François-Xavier Ferron, vous avez relevé une sorte de coïncidence autour de 1845. Vous évoquiez tout à l'heure un certain Ballot qui avait vérifié les équations de Doppler.
Et oui, et dans le champ, dans le domaine du son, en effet. Et c'est aussi en 1845 que Hans Christian Andersen publie La petite fille aux allumettes. Donc,
bon, jusque-là, il n'y a pas de coïncidence.
Pour l'instant, Helmut Lahrenmann a adapté ce conte en faisant un opéra intitulé La jeune fille aux allumettes, musique en images. Le sous-titre est très parleur. Et dans un entretien, dans un texte de Lahrenmann intitulé « Les sons représentent des événements naturels », Lahrenmann revient rapidement sur l'histoire de la petite fille et explique son approche naturaliste des phénomènes sonores, dont les bruits de moteur, parce que c'est une adaptation plus moderne qui se déroule pas en 1845. Donc cette petite fille traîne dans la rue, elle est entourée de véhicules, et tout le premier acte d'ailleurs s'intitule In der Straße, dans la rue. Et Lahrenmann crée vraiment cette ambiance urbaine stressante et va plusieurs fois imiter l'effet Doppler grâce à des combinaisons instrumentales dont lui seul a le secret pour créer cette dramaturgie.
Muriel Joubert, on disait que ces histoires d'effets de distance mouvante avaient des répercussions harmoniques, mais ça veut dire que le traitement de l'harmonie, même par les compositeurs romantiques, n'est pas dénué d'enjeux spatiaux, alors ?
Oui, c'est ça. Disons que si on part du système tonal, inventé entre guillemets au début du XVIIe siècle. Si on part du système tonal, on peut envisager le système tonal comme finalement un langage qui gravite autour d'une note pôle et avec des subordonnées aussi, bien évidemment la dominante, la sous-dominante, etc. Et ce qui fait que on pourrait imaginer qu'il y a bien des effets de distanciation par rapport à la tonique, par exemple, même par rapport à la dominante. Mais en réalité, on est plus dans une histoire de discours temporel, et plus que de spatialisation. Et après, au XIXe siècle, quand les compositeurs commencent à essayer d'explorer d'autres couleurs harmoniques, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des enchaînements d'harmonie qui créent des effets de distanciation. Alors, difficile de dire si ça crée l'éloignement ou le rapprochement, au contraire. Après, je pense que ça dépendra vraiment des oreilles. Mais, par exemple, chez Schubert, on a ça. On a ça aussi chez Chopin, chez Brahms. Chez Schubert, on a ça. Par exemple, dans sa sonate en si bémol de 960, dans le premier mouvement, où là, il va faire entendre dans son exposition de forme sonate trois thèmes. Un premier thème en si bémol majeur. D'ailleurs, entre parenthèses, il module tout d'un coup très brusquement en sol bémol majeur, donc ce qui marque aussi si bémol majeur, sol bémol majeur, une forme de distanciation, même s'il y a des notes communes, mais on y va en tout cas brusquement. Et puis après, il va faire entendre un deuxième thème en fa dièse mineur. Donc là, vous voyez, si bémol majeur, fa dièse mineur, il n'y a plus de notes communes. Donc on a des effets comme ça d'éloignement. Alors même si c'est difficile de le percevoir, parce que là, les thèmes sont quand même amenés tonalement. Et puis, un troisième thème en fa majeur ici, qui est la dominante, bien évidemment. Mais fa dièse mineur et fa majeur, là aussi, on note une différence.
Thank you.
Aldo Ciccolini, dans le début de cette sonate en si bémol majeur Deutsch 960 de Franz Schubert, quand les compositeurs plus modernes s'éloignent du langage tonal, alors que deviennent ces effets de distance ?
Eh bien c'est ça, c'est exagéré encore en quelque sorte, hein, quand un Debussy ou même un Fauré décide de ne plus se soustraire à la discursivité du langage tonal, mais au contraire de spatialiser en quelque sorte l'harmonie pour lui donner son plein pouvoir, et pour quelque part figer aussi le temps, on peut avoir plus d'effet de distanciation entre les accords.
On avait annoncé qu'on parlerait de Ligeti. Il y a une partition pour clavecin qui s'appelle Continuum. C'est le continuum sonore. Donc là, il n'y a plus justement d'écart entre les hauteurs, ou en tout cas, cet écart est visé comme réduit. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire de la profondeur quand on ne compte plus sur les paliers ?
Donc c'est une partition où les notes sont battues, il y a deux notes battues au départ, aux deux mains, chacune sur un clavier, parce que sinon elle ne pourrait pas jouer en même temps, parce que c'est exactement sur le même registre. Et au bout d'un moment, il y a en quelque sorte une main qui va quitter l'autre en rajoutant une note. Et à ce moment-là, on a vraiment l'impression d'une profondeur qui va se creuser ici, parce qu'il y a une main qui quitte l'autre tout d'un coup, donc elle ouvre une autre voie en quelque sorte, et puis aussi parce que cette main-là, ça crée un autre effet d'illusion, cette main-là va finalement apporter un tempo différent, un rythme différent, alors que la pièce est écrite du début jusqu'à la fin en croche, mais on va avoir l'impression comme ça, deux mains qui ralentissent le mouvement, tout simplement parce que dans son motif, au lieu d'avoir uniquement deux notes, il va y en avoir trois, puis quatre, et à chaque fois ça ralentit finalement les points d'appui du petit motif. Et ce qui fait que dans l'œuvre, on va avoir des moments où, comme ça, on va avoir l'impression d'une grande profondeur qui se creuse. Et puis tout d'un coup, on va revenir vers l'unisson, quelque chose qui se ramène. Alors ça dépasse évidemment les histoires d'éloignement et de rapprochement, mais ça crée d'autres types de profondeur. Prestissimo, Continuum de Ligeti par la claveciniste Elisabeth Kochnatska. François-Xavier Ferron, vous nous avez apporté une autre partition de Ligeti où il y a à la fois effet Doppler et déplacement des protagonistes sur scène.
Alors, Ligeti a toujours été féru d'illusions musicales, de mise en scène de véritables trompe-l'oreille. Donc, ça, c'est dans son opéra, Le Grand Macabre, où il y a une scène, un moment où l'orchestre. L'écriture simule l'effet Doppler qu'on a vu, une descente à peu près d'un demi-ton ou d'un ton avec une variation fréquente d'intensité qui correspond à l'effet Doppler. Et en plus, sur scène, c'est un moment où les protagonistes traversent la scène de gauche à droite ou de droite à gauche selon les mises en scène. Donc il y a vraiment à la fois une composante visuelle qui nous rappelle le déplacement d'une voiture qui passe devant nous et avec... Un contenu sonore en adéquation avec ce déplacement qu'on voit sur scène.
Oh, I have it
Un fragment donc du Grand Macabre de Ligeti. On termine avec Turenas, une pièce de John Schoening. Pourquoi ?
Alors là, il y a un lien très intéressant. John Schoening, qui est très connu dans le domaine de l'informatique musicale, dans le domaine de la synthèse sonore et des synthétiseurs, parce que c'est l'inventeur de la synthèse par modulation de fréquence au début des années 70, qui a permis l'essor des synthétiseurs Yamaha. Mais bon, là, c'est pas pour ça. C'est Schoening aussi a développé un algorithme de spatialisation à la même époque, donc entièrement fait à partir d'outils informatiques. Et Schoening était proche de Ligeti. D'ailleurs, Ligeti était venu travailler à Stanford. Puis Ligeti a ramené Schoening dans ses bagages à Darmstadt au début des années 70. Enfin bon, les deux hommes étaient très, très amis. Et Schoening a vraiment développé un art de l'illusion spatiale en développant cet algorithme. Et l'algorithme lui permet aussi bien de jouer sur la direction des sources, généralement dans un espace quadriphonique. Donc il dépasse la stéréophonie en mettant les auditeurs au milieu de quatre haut-parleurs. Donc il crée une quadriphonie. Il contrôle la direction des sons de manière classique en modifiant l'amplitude entre le canal gauche, canal droit, ou le canal droit avant, canal droit arrière. Mais où il est très fort, c'est qu'il crée une véritable illusion de profondeur, non pas juste en jouant sur le volume, parce que ça suffit pas, mais en jouant sur le dosage de l'énergie dans le signal sonore. Parce que plus un son est émis au loin, plus l'énergie des ondes qui sont réfléchies sur les parois vont être importantes par rapport à l'énergie de l'onde qui vient directement à l'auditeur. Et ça, son algorithme permet de simuler ce dosage d'énergie entre les ondes réfléchies et l'onde directe. Et c'est ce qui lui permet de faire des effets de profondeur très, très prégnants. Et pour les mouvements, donc il joue sur la profondeur et la direction, mais quand il veut faire des mouvements rapides, son algorithme simule l'effet Doppler, c'est-à-dire va rajouter de légères variations de fréquence afin de donner une illusion de vitesse. Donc le procédé est inversé. L'algorithme altère les fréquences pour donner une sensation de vitesse. Et tout ça est remarquablement mis en musique dans une pièce qui s'appelle Turenas, entièrement synthétisée par ordinateur, qui date de 72. Et dans laquelle explique Jean-Claude Risset, un autre grand illusionniste, Schoening instaure un espace illusoire. C'est l'audition qu'il instaure, qui le construit, qui l'infère à partir des indices qu'elle détecte dans les sons. Schoening suggère à l'auditeur une localisation irréelle mais prégnante.
Eh bien, laissons à Jean-Claude Risset le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup, François-Xavier Ferrand.
Merci à vous.
Et merci, Muriel Joubert.
Merci.
Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en replay sur metaclassique.com.